Yep, all ready.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Encore Heureux. Tout commence par la maladie. Né à Rome le 28 novembre 1907, Alberto Pincerle, futur Alberto Moravia, fils d'un architecte d'origine juive, est frappé à l'âge de 9 ans par la tuberculose. Il est reclus plusieurs années dans un sanatorium alpin. Je ne suis jamais allée à l'école. J'ai passé 5 années couchée, de 9 à 17 ans, mais j'étais abonnée à la bibliothèque et je lisais un livre par jour, en 3 langues, l'italien, le français et l'allemand. C'est dans ce climat qu'Alberto Moravia va se forger une hypersensibilité peu commune, qui donnera naissance à un coup d'éclat littéraire précoce, Les Indifférents, publié à compte d'auteur en 1929. Il a seulement 22 ans. Moravia, c'est l'acuité du regard, un sens de l'observation quasi balzacien. Ses deux premiers romans sont traversés par une rare férocité, la volonté de démasquer dans l'univers bourgeois romain les symptômes d'une inéluctable décrépitude. Moravia ne cache pas son dégoût, il le cultive. C'est sans doute pourquoi on en a fait une sorte d'ancêtre de l'existentialisme. La nausée avant la lettre. Ce grand observateur de la société bourgeoise dresse le portrait d'un monde qui aboutit au fascisme. Le Vatican ne s'y trompe pas, qui se hâte de mettre ses livres à l'index. La plus grande partie de son œuvre fouille la psychologie des profondeurs. Grand lecteur de Freud, puis de Lacan, Moravia a poussé très loin l'analyse de ses personnages. Agostino, en 44, la désobéissance, en 48, le conformiste, le mépris, porté à l'écran par Godard, en 54, l'ennui, l'attention, en 66, Desideria, en 79, constituent autant de plongées prodigieuses dans la mauvaise conscience moderne. Antifasciste de la première heure, Moravia est l'antithèse des brutes de Mussolini. En 41, après la publication d'une satire sur la dictature, il se voit interdire toute publication. Cette année-là, il épouse la grande romancière Elsa Morante. Ils entrent ensemble dans la clandestinité jusqu'en 44. Ils seront ensuite séparés pendant 24 ans, car Moravia vit alors avec l'écrivaine Dacia Mareni. Le régime persécute les Juifs à partir de 1938. Les déportations s'amplifient en 1943. Moravia fuit la capitale avec sa femme, Elsa Morante, et tous deux s'installent pour quelques mois dans un village perdu de la campagne romaine. L'un et l'autre écriront sur cette Italie dévastée, ravagée par la guerre. La Storia d'Elsa Morante reste comme l'un des plus grands romans italiens sur cette période. Celui de Moravia, la Ciociara, à côté, fait pâle figure. Ils se séparent quelques années plus tard. Les deux autres femmes de Moravia, Dacia Mareni puis Carmen Hiera, furent aussi écrivaines, mais elles ne lui feront littéralement jamais d'ombre. Rappelez-vous que je suis Elsa Morante et pas Elsa Moravia, disait Elsa. Moravia est snob. Il fréquente l'aristocratie et un milieu d'artistes, de journalistes et d'acteurs. Elsa souffre de la modestie de son origine. Elle a la sensation que sa personnalité est scindée, hantée par des pulsions contraires. Ils sont tous deux des fous de littérature, autodidactes. Lui est attiré par les situations tragiques et réclame un tempérament original, inclassable, violent. Elsa, de son côté, ne peut vivre intensément que dans des circonstances exceptionnelles et ne supporte pas la vie normale. Il se marie en 1941 sans pour autant échanger d'alliance. Un bouquet de brins de muguet fera l'affaire. Et Moravia se résigne à partager la vie d'une femme qui fuit la réalité quand lui la recherche et veut la sonder. Ils écrivent selon des principes contraires et avec des visées contraires. Moravia tempête contre l'idéologie de l'espoir et de la rédemption, mais place dans l'être humain une confiance qui est celle de l'intelligence, de la raison. Alors que pour Elsa, la narration n'a pas pour but de dénouer les liens complexes de ses personnages pour en dégager des lois. Au contraire, elle veut installer une confusion onirique et prouver par son style et sa narration que la réalité ne parvient aux êtres humains qu'à travers un écran irrationnel et passionnel. Les scènes de ménage bruyantes ne manqueront pas dans ce couple, devant un public d'amis consternés qui en sont les otages. Mais leur relation est solide. Pendant la guerre, alors qu'ils sont contraints de fuir le fascisme, étant sur la liste des écrivains éliminés, Moravia est frappée par la force de caractère d'Elsa. Son authenticité, son courage, sa ténacité, sa résistance. Elsa, pour sa part, déclare qu'elle se serait suicidée si jamais Moravia avait été déportée. Encore heureux, portrait d'écrivain par Gaël Heureux sur Radio B. Moravia avoue beaucoup souffrir pour écrire, s'astreignant à 3 pages parfaites par jour, remettant sans cesse sur le métier la phrase composée. Chaque matin, je me lève vers 7h et à 8h, je suis au travail. Tous les jours et depuis très longtemps. En revanche, l'après-midi, pas une ligne. Je me promène, je vois des amis, je vais au cinéma. L'image repose. Mais ce puriste ne se cantonne pas à la Tour d'Ivoire. Grand voyageur, citoyen attentif, il ne cesse d'intervenir dans la presse, à la radio, à la télévision, pour donner sur le monde un jugement noir, mais jamais dénué d'esprit de justice. Au même titre que son ami Pasolini, Moravia est bon et généreux, un citoyen italien de premier plan. Il s'engage avec ardeur dans la vie politique. Longtemps compagnon de route du PCI, il s'en éloigne lors de l'entrée des chars soviétiques à Budapest en 1956. En 1984, il sera toutefois élu au Parlement européen avec l'appui des communistes pour contribuer, dit-il, à la lutte contre l'arme nucléaire. Il ajoute « Quand on me demande si je suis pacifiste, je réponds « Non, je suis zoologue, je veux la sauvegarde de l'espèce ». Devenu un homme public, sommé de donner sans fin son point de vue sur la société, Moravia ne mâche jamais ses mots. Ses thèses sur la consommation devenue une fin en soi sont vigoureuses. Ses plaidoyers en faveur de la liberté des corps, qu'ils soient d'hommes ou de femmes, provoquent souvent la polémique. Son remariage en 86 avec Carmen Hiera, jeune beauté espagnole de 32 ans, passablement aventurière, le place au cœur d'un scandale. Il n'en a cure. Opposant aux ragots et aux mesquines attaques son visage de lion tiré à 4 épingles. Très commendatore des lettres, Moravia. Jusqu'à la fin, il demeure un parangon de lucidité. Sur lui-même d'abord. Et sur la famille, Moravia dit « Ah, elle est toujours la même. Elle ne peut pas changer, c'est une forteresse d'égoïsme primitif. Les parents sont les généraux et les enfants les soldats. » Sur la politique, elle m'ennuie. L'artiste recherche l'absolu alors que le politique vit dans le relatif, le contingent. Sur la mort, la vieillesse est une maladie et je ne l'ai pas encore attrapée. Ce qui, en définitive, rend ma mort possible à n'importe quel moment. Dans 10 ans, dans 5 ans, demain peut-être, comme une rupture absolue qui ne suit pas l'ordre du temps. Moravia écrit jusqu'à son dernier souffle. Vieillard, qui n'a pas l'air de l'être, libertin raffiné arpentant les bords du Tibre. Appuyé sur sa canne à pommeau, Moravia entre dans la légende du siècle comme l'un des derniers grands intellectuels. En 83, il publiait 1934, un roman nettement autobiographique dans lequel il évoque le suicide. C'est l'un des thèmes du livre. Mon suicide, oui, mon suicide. C'est à moi que je pensais quand j'ai écrit ce livre, car j'ai beaucoup pensé au suicide entre 75 et 80. Mais j'ai fini par croire qu'il ne faut pas mourir de désespoir. Au contraire, il faut en vivre comme un stoïcien ou même comme un chrétien. Il faut vivre à tout prix et se nourrir de désespoir plutôt que de vouloir toujours en mourir. Dans la réalité, Moravia mourra à Rome d'une attaque cardiaque dans sa salle de bain. Il avait 83 ans.
Chi è Alberto Moravia? Beh, sono uno scrittore di romanzi e di teatro e di novelle e di critica. Cioè sono, alla fine sono letterato.
En 67 paraît un recueil de nouvelles au titre tautologique Una cosa è una cosa. En français, une chose est une chose. À travers les 40 nouvelles de ce recueil, Moravia, toujours imperturbablement lucide, le regard tendu comme un fil de fer mouillé, Moravia nous conduit à travers des chemins difficiles, à la découverte des profondeurs du conscient et de l'inconscient. La première de ces 40 nouvelles s'intitule « Ordonne, je t'obéirai ». Longtemps employé comme huissier dans une banque, je me suis senti perdu lorsqu'on me licencia pour cause de réduction de personnel. J'étais habitué à recevoir des ordres de toutes sortes. Sonnerie, feu rouge et vert, du cadran électrique, demande de renseignement des clients, commissions diverses, et puis tout à coup, du jour au lendemain, plus rien. Le divan dans notre salle de séjour, mes jambes immobiles, mes bras croisés, mes yeux fixés dans le vide. Je ne voudrais pas qu'on se méprenne sur le sens de mes paroles. Je n'avais pas plus rien à faire parce que je n'avais rien à faire, mais parce que je ne recevais plus d'ordre. Peut-être que tout le monde ne voit pas la différence. Cependant, pour moi, elle existait bien. Et comment ? Je m'explique. Après quelques jours passés à chercher vainement un nouvel emploi, je me trouvais un matin enfoui sous mes couvertures, essayant de me persuader que je dormais vraiment, quand la voix de ma femme s'éleva dans la chambre. La voix courroucée disait « Alors, qu'est-ce que tu fais au lit à cette heure-ci ? Tu n'as pas honte ? Allons, ouste, lève-toi, habille-toi ! Pendant que je finis ma toilette, tâche de faire quelque chose d'utile. Va préparer le déjeuner. » Vous dites que ce sont des mots insignifiants et bien ordinaires. Sans doute, mais sur moi, ils firent un effet extraordinaire. Immédiatement, je pensais, lève-toi, habille-toi, va préparer le déjeuner. Ce sont des ordres, de véritables ordres, aussi tranchants et positifs que ceux que je recevais à la banque. Ce sont aussi des ordres. Comme provoqué par ces ordres, je sentis quelque chose s'agiter dans ma tête, descendre dans mes jambes. J'envoyai promener mes couvertures, mis les pieds par terre et courus vers la salle de bain. Là, j'ouvris le robinet de la douche. Enfin, j'obéissais. En commençant à m'affairer, je m'aperçus que ces ordres très insignifiants, c'est vous qui l'avez dit, n'est-ce pas, pouvaient en commander d'autres à la deuxième ou même à la troisième puissance. Par exemple, reprenons la simple phrase « va préparer le déjeuner ». Eh bien, cette phrase, je la décomposais ainsi. Premièrement, aller à la cuisine. Deuxièmement, allumer le gaz. Troisièmement, verser l'eau dans la cafetière. Quatrièmement, couper le pain en tranches. Cinquièmement, poser le grill sur le feu et les tranches sur le grill. Sixièmement, Sixièmement, préparer le plateau avec les tasses, le sucrier et le beurre. Septièmement, mettre sur le plateau la cafetière et le pain rôti. Huitièmement, porter le plateau dans la chambre et le poser sur le lit. Beaucoup de gestes, hein, vous voyez, complexes. Et difficiles à mener à terme si je n'avais pas bien enregistré l'ordre donné par ma femme. Voilà pour la deuxième puissance. Il restait la troisième. Comme par exemple le geste de mettre le beurre sur le plateau, le débarrasser de son papier d'emballage, de le diviser en petites parts à l'aide d'un couteau, puis trouver une assiette pour y disposer ses parts, etc. Que signifiaient ces réflexions ? Tout simplement que je retrouvais ma raison de vivre. Je me mis à exister, à fonctionner après ces longs jours d'inactivité qui avaient suivi mon renvoi de la banque. J'avais été un fonctionnaire et tout doucement, je le redevenais parce que, excusez-moi ce mauvais jeu de mots, je fonctionnais de nouveau. Ma femme était sténodactylo et, bien entendu, elle se rendait tous les jours au bureau. Ce matin, dont je parle, elle ne me donna pas d'autres ordres. Juste avant de partir, en courant, elle me cria « Réponds au téléphone et n'oublie pas de noter les communications !» C'était suffisant. Je m'assis dans la salle de séjour et j'attendis. Qu'est-ce que j'attendais ? Qu'est-ce que j'attendais, demandez-vous ? J'attendais les appels téléphoniques dont ma femme m'avait parlé. Grâce au téléphone, j'allais peut-être avoir 20, 40, 60 secondes de vie, ou plutôt de fonctionnement, au milieu de 2 heures d'inertie. C'était déjà beaucoup pour moi. Et si par chance les appels n'étaient pas 1, mais 2 ou 3, mon existence prendrait un caractère de régularité. Elle redeviendrait en quelque sorte fonctionnelle. En remuant ses pensées, mon regard s'arrêta sur la machine à écrire de ma femme. Elle s'en sert parfois le soir pour exécuter quelques petits travaux supplémentaires. Ce clavier, virtuellement plein de mots, était à cet instant immobile et muet, et je ressentis envers lui une sorte de sentiment fraternel. Ne ressemblais-je pas à cette machine, inerte, durant l'absence de ma femme, qui reprenait vie quand elle rentrait à la maison ? Au fond, nous étions, cette machine et moi, comme frères et sœurs. Je pensais qu'elle était même plus humaine que moi, car sa voix était forte et vive, tandis que la mienne ne se faisait jamais entendre. Ce jour-là fut merveilleux, il y eut des coups de téléphone et je découvris que je pouvais recevoir des ordres d'un peu partout et à tout instant. On sonnait à la porte et j'étais obligée de me lever, d'ouvrir, de répondre. 2 femmes se disputaient dans la cour, j'étais obligée de regarder par la fenêtre. Des gouttes d'eau tombaient dans l'évier de la cuisine, j'étais obligée d'aller resserrer le robinet et ainsi de suite. Vous voyez que je me contentais de peu et que je faisais de nécessité vertu. Seulement, un homme ne peut pas vivre en ayant pour seule fonction de se lever pour aller fermer un robinet qui fuit. Non, il lui faut quelque chose de plus important ou de plus régulier et de plus absorbant, comme par exemple 100 robinets en mauvais état qui fuiraient l'un après l'autre, toutes les 2 minutes, mettons. Pourtant, je n'étais pas mécontent. Je m'estimais à 20 coudées au-dessus de la machine à écrire qui ne sortirait de son immobilité qu'au retour de ma femme. Ma femme avait dû comprendre qu'elle avait pris dans ma vie la place de mon ancien patron, car de jour en jour, elle m'accabla d'ordres plus nombreux et plus précis. « Rends-toi utile, espèce de bon à rien !» Tu es au chômage chronique, ma parole. Prends un balai, bouche inutile, va faire la vaisselle, fais la lessive, repasse tes chemises, va au marché, fais la cuisine, mets de l'ordre, etc., etc. Elle avait renvoyé la femme de ménage. On aurait dit qu'elle voulait me punir de ne pas trouver de travail et de ne plus rapporter d'argent à la maison. Mais elle ne s'apercevait absolument pas du plaisir qu'elle me faisait. Que dis-je, du plaisir ? Elle me faisait vivre en me faisant fonctionner. J'enregistrais dans ma tête les ordres qu'elle me donnait le matin avant de partir pour son bureau et je passais ma journée à les exécuter ponctuellement comme une mécanique. Dans mes rares moments de repos, je réfléchissais et j'en étais arrivée à comprendre que je dépendais totalement de ma femme pour exister. Elle et elle seule pouvait mettre en mouvement mes jambes, mes bras, mes mains, mes doigts. J'éprouvais alors pour elle un amour passionné, mélange de gratitude, et de confiance. Cette vie se poursuivit environ pendant un an, jusqu'au moment où, à des signes divers, je crus sentir que quelque chose se détériorait dans notre entente. Nos rapports avaient ressemblé, pour reprendre la comparaison, à ceux qui existent entre une dactylo et sa machine à écrire, c'est-à-dire parfaits et fonctionnels. Maintenant, ils se rapprochaient beaucoup plus de ceux d'un marchand de ferraille envers un outil usé. Ma femme se rendait-elle compte à présent qu'elle ne me punissait pas en me donnant des ordres, mais qu'elle m'aidait à vivre ? Où avait-elle trouvé quelqu'un qui enregistrait et exécutait mieux que moi ? Le fait est qu'à partir de ce moment, elle oublia de me donner ses instructions quand elle sortait le matin. Je redevins immobile, inerte, les jambes repliées, les bras croisés, les yeux dans le vide, une sorte d'automate dont on aurait perdu la clé. Ma femme semblait de plus en plus occupée. Elle s'habillait sans me dire un mot. Elle préparait elle-même son café. Elle ne me disait ni bonjour ni au revoir. Elle rentrait très tard, et quelquefois pas de la nuit. Je ne recevais plus de coups de téléphone, personne ne sonnait plus à la porte. Comme elle ne me l'ordonnait plus, je ne faisais plus le ménage. Pour manger, j'obéissais à de vagues appels de mon estomac et j'ouvrais des boîtes de conserve. L'appartement devenait de plus en plus sale et lugubre. Le carrelage était taché, les meubles poussiéreux, les plats pas lavés. Les vieux journaux traînaient partout, les vêtements s'accumulaient sur les chaises et sur le lit défait. Ma femme, sans aucun doute, voyait tout cela, mais il me semblait qu'elle n'en était pas fâchée. Peut-être voulait-elle, par l'entremise de tout ce désordre, me faire parvenir un message, un ordre plutôt, mais mon esprit ne le saisissait pas. Le dimanche matin, elle restait un peu plus longtemps chez nous et remettait sommairement les choses en place dans notre petit deux pièces. Et ce fut justement un dimanche qu'en ouvrant les yeux, je la vis déjà prête à sortir, remplissant sans faire de bruit une valise qui était posée sur le lit. Elle allait et venait entre la commode et la valise, et ses gestes me donnaient un ordre détestable que je n'avais pas du tout envie d'exécuter. Cependant, ma langue se remit en mouvement et mes lèvres s'ouvrirent pour prononcer. « Qu'est-ce que tu fais ?» Elle sursauta, me regarda, s'approcha et s'assit sur le lit en disant « Le moment est venu de nous séparer, Tullio. De toutes les manières, j'essaie depuis longtemps de te le faire comprendre. Tu fais semblant de ne rien voir et je suis obligée de te dire que tout est fini entre nous. J'ai rencontré un homme que j'aime et qui m'aime. Depuis 2 mois, je vis avec lui. Je ne reviendrai plus ici. Ici, du reste, il n'y a plus rien à moi, à part quelques chiffons et ma machine à écrire. Tullio, tu vas être gentil et serviable comme toujours. L'homme avec lequel j'ai décidé de vivre m'attend en bas dans la rue. Veux-tu bien prendre ma machine et la porter dans sa voiture ? Je ne te demande que ça. » Alors, tout de suite, j'ai ressenti une douleur épouvantable, une douleur dont la violence me parut être un ordre, et j'ai dit « Mais moi, je ne peux pas vivre sans toi !» C'était la vérité. Comment vouliez-vous que j'existe sans recevoir ces ordres ? Elle a préféré interpréter mes paroles à sa façon. « Moi, figure-toi que je peux fort bien vivre sans toi !» Je reconnais que tu sais te rendre utile, mais dans la vie conjugale, se rendre utile n'est pas tout. Il faut savoir se rendre nécessaire. Et toi, mon pauvre Tullio, tu ne m'es pas nécessaire. Je peux te remplacer par un aspirateur, une machine à laver, les abonnés absents. Ma douleur continuait à me donner ses ordres et je repris. C'est possible, mais moi je ne te laisserai pas partir. « C'est bon, ne fais pas l'enfant et habille-toi. Tu vas prendre ma machine à écrire et tu la porteras jusqu'à la voiture. Je me charge de ma valise. » Pour la première fois depuis longtemps, je recevais 2 ordres contradictoires. Ma douleur m'ordonnait de l'empêcher de partir et ma femme m'ordonnait de transporter sa machine à écrire. « Quel est celui des 2 qu'il faut exécuter ?» me disais-je en m'habillant. Ma femme continuait ses va-et-vient dans la chambre, puis elle ferma sa valise et s'approcha du miroir. Elle me tournait le dos. Je ne sais quelle guêpe m'a piqué et j'ai crié « Non, tu ne me quitteras pas !» Et mes mains se sont posées autour de son cou. Tout s'est passé facilement, précisément, automatiquement. J'ai senti son corps qui s'abandonnait et j'ai eu peur d'être entraînée avec lui par terre. Je l'ai poussé jusqu'au lit, je l'ai soulevé, je l'ai étendu sur le dos en allongeant ses bras. Il me tardait maintenant d'exécuter l'ordre que ma femme m'avait donné. J'ai enveloppé la machine dans sa housse. Je suis sortie de l'appartement. J'ai pris l'ascenseur pour descendre jusqu'au rez-de-chaussée. L'automobile était devant la porte, mais à cause du reflet du soleil dans le pare-brise, je n'ai pas pu voir l'homme qui était au volant. J'ai fait le tour de la voiture, j'ai ouvert le coffre arrière et j'y ai déposé la machine à écrire. Ensuite, je suis remontée, je suis entrée dans notre appartement. Je me suis assise sur le divan de la salle de séjour, les jambes repliées, les bras croisés, les yeux fixés dans le vide, attendant des ordres.
Vous êtes sur Radio B, vous écoutez Encore heureux.
Chers auditeurs, merci. En première partie d'émission, la biographie de Alberto Moravia a été tirée d'un article de Jean-Pierre Leonardini, publié dans l'Humanité du 27 septembre 1990. Vous pouvez retrouver toutes les émissions de Encore heureux en podcast sur notre site. En janvier, nous serons en compagnie de l'intraitable et puissante Elsa Morante. Rappelez-vous, disait-elle, que je suis Elsa Morante et pas Elsa Moravia. À très bientôt sur Radio B. Yep, already.